M.
Le goût de M.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût, mauvais goût ? Et puis d'abord, comment se forme le goût ? Cette semaine, le goût de M s'invite chez Étienne Daou. Il est chanteur, auteur d'une des œuvres les plus importantes de la chanson française de ses 40 dernières années, 11 albums studio et une flopée de tubes, Week-end à Rome, Le Grand Sommeil, Tombé pour la France. Daou, c'est une voix douce, un peu parlée, un hédonisme et un goût de la pop mêlé à quelque chose de plus sombre, de plus enfoui. Un très beau livre, Étienne Daou, A Secret Book, écrit avec sa grande amie Sylvie Coma, retrace aujourd'hui, avec un nombre impressionnant d'archives, de photographies, de courriers et de manuscrits, ce parcours hors normes, débuté à Oran et tout entier guidé par son goût. Alors pour la musique, bien sûr, passion d'enfance, mais aussi pour les artistes qu'il aime et qui sont pour lui un oxygène, une ouverture, sa famille d'élection, Nico, Françoise Hardy, The Velvet Underground, Marianne Faithfull, Élie et Jacquenot. C'est dans cette vie de rencontres, dans cette odyssée sensible, que je vous propose aujourd'hui de nous plonger avec cet épisode. On a rendez-vous chez Étienne, dans le 18e arrondissement de Paris, où il vit depuis de longues années. On arrive dans le quartier des Abbesses, une petite rue pavée. On s'arrête devant une maison blanche. On y est.
Bonjour.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Étienne.
Bonjour. Entrez.
Étienne Daou, on est chez vous. C'est un espace qui vous ressemble ici ?
J'espère qu'il me ressemble assez.
Vous le décririez comment ?
Alors il est grand, c'est une maison toute en bois. C'est un ancien atelier d'artiste dans lequel a vécu Buffalo Bill quand il était à Paris, qui tournait avec le Cirque Barnum. Donc ce qui explique, des fois, il y a des tas de gens devant chez moi qui montrent la maison, pas parce que la façade est belle, c'est la façade la plus pourrie de la rue et probablement du quartier, mais parce que cette maison a une histoire. Donc c'est une maison que Jeanne Moreau trouvait que ça ressemblait à un intestin. Elle disait que la maison, c'est un intestin. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de... Enfin, en tout cas, à cet étage-là. Après, au-dessus, c'est beaucoup plus clair, il y a une très très grande pièce.
Il y a l'esprit du Falloubi dans la maison ?
Ah, on peut peut-être l'entendre galoper si on si on prête un peu attention.
On est monté au premier étage dans la très grande pièce qui abrite à la fois à droite le salon, à gauche la cuisine ouverte. On s'est assis autour de la table à manger. On a regardé un instant la photo, ou plutôt le roman photo, accroché en face de nous, au mur, qui retrace une nuit d'Élie et Jacquenot dans les années 70. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Je dirais la fleur d'oranger, parce qu'on en mettait partout, en fait. C'est vraiment... C'est une eau et une essence qui rappellent beaucoup l'Algérie, en fait. Et puis, il y a un truc très dorlotant dans la fleur d'oranger.
Vous avez grandi à Oran, vos premières années, en Algérie. Donc, ça ressemblait à quoi, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi ?
C'était un petit appartement tout à fait modeste, un premier étage d'un immeuble, dans une petite rue qui s'appelait la rue Jean Massé. Mes grands-parents habitaient pas très loin, à 10 minutes à pied. Mais j'ai peu de souvenirs d'Oran, en fait, finalement, parce que très, très vite... Les événements ont fait que mes grands-parents sont partis dans un petit village de plage. Oui, c'était la guerre, ouais. Qui s'appelait le Cap Falcon. Parce qu'en fait, c'était assez dangereux quand on était à la maison. Il y a eu plusieurs épisodes où on a failli vraiment se faire zigouiller, mettre le feu dans l'appartement, etc. Donc, c'était quand même assez angoissant pour ma mère, qui était toute seule avec ses enfants. Et puis, il fallait passer sous les fenêtres pour pas prendre de balles, enfin, s'allonger dans les voitures et tout ça. Enfin, il y avait tout un truc, mais tout un rituel qui, pour un enfant, est presque un jeu, quoi. Donc, on ne pouvait pas vivre ça d'une manière dramatique, quoi. L'enfance modifie tout, en fait, remet des couleurs à tout. Et en fait, on est parti rejoindre mes grands-parents et mes tantes au Cap Falcon, qui est un village de plage à 25 km, je crois, d'Oran, où il y a 10 maisons, enfin, et surtout une belle plage, des dunes, une église qui servait d'école aussi, quand on voulait aller à l'école. Enfin, j'y suis allé d'ailleurs en diagonale. Et on était 3 élèves, il y avait un grand de 17 ans, un autre de 10 ans et moi qui devait en avoir 6.
Et vos tantes là-bas, oui, donc elles tenaient une épicerie, c'est ça?
Mes grands-parents ont loué une espèce de grande maison qui était divisée en deux, en fait. Donc il y avait des logements à l'arrière. Et à l'avant, il y avait d'un côté un établissement où deux de mes tantes vendaient des sodas, des glaces et tout ça, où il y avait un jukebox. Et de l'autre côté, c'était une épicerie avec des bonbons, des épices, voilà. Et donc, moi, j'ai vécu dans cette ambiance-là, avec une caserne en face. On a beaucoup vécu avec les militaires, en fait, parce que mon père a été militaire à un moment donné de sa vie. Donc, il a beaucoup ramené de ses amis à la maison. Et j'ai été vraiment élevé avec eux. Et ensuite, en face, il y avait vraiment une caserne de légionnaires et de militaires aussi. Et donc, qui m'ont appris à nager, qui m'ont...
Vous le disiez, votre mère a été assez vite seule puisque votre père est parti, en fait, quand vous étiez très très jeune. Vous disiez, votre père, il était militaire. Qu'est-ce que vous savez de ce qu'il aimait, lui, de ce qui l'intéressait de...
C'était un fêtard, vraiment. Il s'est retrouvé à l'âge de 20 ans, à la mort de ses parents, avec beaucoup d'argent. Et il s'est beaucoup amusé. Enfin, voilà, il venait passer la soirée à Paris pour aller voir, je ne sais pas qui, Gilbert Bécaud à l'Olympia. Voilà, changer de voiture tous les mois. C'était un peu ce genre-là, puis il entretenait une cour de gens. C'était un mélomane aussi, il aimait beaucoup la musique. Donc il y a beaucoup eu de musique chez moi. Ça c'est un souvenir, quelque chose qui m'est resté. Beaucoup de jazz. Et puis, curieusement, un album des Beach Boys qui est devenu mon favori à cause de la pochette, forcément. Parce que c'était une pochette très colorée sur la plage et tout ça. Donc je faisais un lien forcément avec l'endroit où on habitait. Je sais qu'il jouait de la trompette. Un jour, j'étais à la Closerie des Lilas et un monsieur qui vient vers moi et qui me dit, vous savez, j'ai très bien connu votre père, donc quand on me dit des choses comme ça, tout de suite, je tombe par terre parce que c'est comme quelqu'un qui n'a pas existé pour moi. Ouais. Donc tout d'un coup, d'être amené à sa réalité, c'est très étrange. Et ce monsieur m'a dit qu'il jouait de la trompette avec mon père et que visiblement, ils avaient beaucoup fait la fête ensemble. Et visiblement, il avait l'air de beaucoup l'aimer. Je pense que ça devait être quelqu'un de très sympathique pour ses amis. Peut-être un peu moins pour sa femme, je crois.
Si vous parlez des goûts de votre mère... Vous diriez quoi d'elle? Qu'est-ce qu'elle aimait? Elle aimait la musique aussi, votre mère?
Ma mère aime beaucoup la musique. On a beaucoup écouté Frank Sinatra, Dionne Warwick, Ricky Nelson. Tu sais, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de ces disques-là à la maison. Donc, vraiment, ça fabrique l'oreille quand même d'entendre des musiques comme ça quand on est enfant, tout de suite. Et ma mère est une femme de devoir qui n'est pas très expansive. Enfin, vraiment, mes parents sont excessivement différents. Je crois qu'ils se sont plus parce qu'ils se sont plus parce qu'ils étaient assez beaux gosses tous les deux que mon père a dragué ma mère pendant des mois. Elle voulait pas en entendre parler, mais quand même elle a cédé. Il lui a offert un vélo, je crois. Puis ce vélo a fait basculer, je crois, ses sentiments pour lui. Mais il passait tous les jours devant l'endroit où elle habitait. Il passait devant chez elle. Il la regardait. Tout ça. Enfin, il y avait toute une espèce de truc de séduction qui a duré des mois.
Et donc elle vous dit que... C'est devenu, par la force des choses, une femme de devoir, en fait.
C'est une femme de devoir. Elle n'aimait pas sortir. Elle voulait être avec ses enfants et avec sa famille. Ce fait qu'on a beaucoup vécu avec mes grands-parents par la force des choses. Et puis, quand elle s'est retrouvée assez isolée, assez seule, on est parti habiter au Cap Falcon. Donc, ouais. C'était une famille très, très soudée de femmes, en fait. Donc, il y a ma mère qui est l'aînée de 5 sœurs, de 5 filles. Des filles très, très joyeuses, très fortes, très... parle très fort, très vivante, très joyeuse. Et ma grand-mère aussi, une forte femme, vraiment, qui menait son monde, qui n'hésitait pas à aller casser la figure à des mecs si vraiment elle n'était pas contente. C'est arrivé, on l'a vu. Et mon grand-père, par contre, qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, parce que en fait, il n'y avait pas de figure masculine, et cette figure masculine qui était mon grand-père était quelqu'un qui était extrêmement respecté par toutes ces femmes, sans élever trop la voix. Et donc, ça a dû me marquer, parce qu'en fait, il disait un truc un petit peu à voix basse, et puis tout d'un coup, tout le monde s'arrêtait. Donc, j'ai dû me dire, là, il y a un truc.
Oui, donc vous vivez ces années, bon, à Cap Falcon. Vous l'avez dit, il y avait un jukebox. Dans le livre que vous venez de sortir, vous dites que c'était votre premier amour, ce jukebox.
Une fascination absolue, oui.
On vous appelait Only You.
Oui.
Non, parce que vous mettiez tout le temps la chanson.
Oui, je la chantais tout le temps. Et puis, on me mettait sur le bar et je twistais. Donc, on m'appelait Titin le Twister ou Only You.
Donc voilà, il y a ces années comme ça. Et puis après, effectivement, vous allez partir en France avec une de vos tantes. Mm-hmm. Votre mère, elle ne peut pas quitter l'Algérie parce qu'elle n'a pas divorcé. Enfin, votre père est parti. Ouais. Elle est bloquée.
Elle est restée avec une de mes sœurs en Algérie. Et puis moi, je suis rentré avec une de mes tantes.
Et alors, vous arrivez d'abord à Reims, je crois, chez une
à
de
Reims,
vos tantes.
Oui. Ouais.
Et vous dites, cette tante et cet oncle aussi, je crois, elle a été très importante parce qu'elle m'a donné le goût de la culture, le goût de la lecture, et le goût de la culture comme aussi possibilité d'élévation, en fait.
Oui, parce qu'en fait, je me sentais, je ne veux pas dire immigré, mais oui, parachuté dans un monde absolument inconnu, en ayant été à l'école vraiment parfois, et puis chez les jésuites en plus, donc vraiment dans une école assez dure.
À Reims, quand vous êtes arrivé.
À Reims, oui, donc avec une très normée, quoi. Donc c'était difficile de s'intégrer, il a fallu vraiment que je me batte physiquement, beaucoup, beaucoup. C'est là où j'ai appris vraiment à me serrer de mes poings, et puis aussi à me dire que si j'étais un bon élève, j'aurais la paix, en fait, d'une certaine manière.
Oui, vous dites dans votre livre que vous vous êtes employé jusqu'à l'adolescence à devenir un peu invisible, quoi.
Oui, parce qu'en fait, les gens me posaient beaucoup de questions, en fait, si vous n'êtes pas avec vos parents... que vous venez d'ailleurs, etc. Surtout, en plus, à l'époque, c'était beaucoup plus rare. Et donc, c'était isolant, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'était soit invisible, soit de ne pas parler du tout de la vie d'avant. D'abord, avec des injonctions familiales. On me disait, où est ton père? Que fait ton père? D'abord, je ne le savais pas. Puis, c'était des questions embarrassantes. Et puis, quand on est ailleurs, je ne sais pas, je trouvais ça en plus amusant, même si je sentais que c'était... une attitude générale de ma famille, c'était, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle histoire, on écrit une nouvelle page, et on n'en parle plus. Et j'ai senti ça, vraiment. Mmh. Et donc, je n'en ai plus parlé du tout, jusqu'à l'oublier, ou même considérer que ce n'était pas très important.
Donc, vous avez commencé à lire, beaucoup ?
Oui, ouais, j'ai commencé, mon premier livre de poche, c'était le Fantôme de l'Opéra, que j'ai adoré, et tout de suite, j'ai attaqué Julien Green. Julien Green, c'est quand même très sombre, voire gothique. Hein, j'aimerais bien d'ailleurs relire ses livres parce qu'en fait, j'imagine l'impact que ça a pu avoir sur le petit garçon que j'étais quand même.
M, le magazine du Monde présente Le goût de M.
Alors où est-ce qu'on va là, Étienne ?
Alors là, on est dans l'entrée.
Ouais.
Dans
l'entrée. Là, c'est des bibliothèques.
Oui, là, c'est plutôt la littérature française. Bon, évidemment, il y a plein de Genet, il y a Cocteau, il y a Artaud, puis après, il y a plein d'autres choses, Miller. Enfin.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça ?
Bon, ça, c'est Rimbaud, ça, c'est un peu la base.
C'est la base ?
Quand on est un jeune adolescent un peu tourmenté, Rimbaud.
Ouais. Et toujours ? Vous lisez toujours ?
Non, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lire pour les avoir en soi, elles sont rentrées en soi. Après, il y a une bibliothèque qui est un peu plus affriolante, un peu moins sérieuse, où il y a la peinture, le cinéma, pas mal de trucs de Warhol, Pierre et Gilles. Je suis dingue de Marilyn Monroe. Donc, dès qu'il y a un livre qui sort, même s'il est n'importe quoi, j'achète.
Pourquoi vous aimez tant Marilyn Monroe ?
Je ne sais pas, je crois que tout le monde aime Marilyn Monroe. Tout le monde retrouve un petit bout de soi chez elle. Tout le monde projette quelque chose de soi chez elle. Donc voilà, j'ai une obsession aussi. À un moment donné, j'ai failli acheter sa maison.
C'est aux États-Unis ?
La maison où elle est morte, qui était à vendre très peu cher, en fait. Et je trouvais que, j'ai des fascinations pour les maisons. Comme ça, je suis fasciné par la maison à Capri, vous savez, la Villa Malaparte.
L'appart
de Syd Barrett, l'atelier de Bacon. Enfin, j'ai des fascinations comme ça pour des lieux, parce que je trouve que les murs ont absorbé toutes ces énergies et que je les ressens. Voilà.
Après, vous êtes venu quelques années à Paris. Vous avez rejoint votre mère cette fois-ci. Et pas très loin d'ici d'ailleurs, vers Pigalle en fait, là où vous habitez.
Mes grands-parents habitaient Place Blanche en fait.
Ah ouais, donc pas très très loin de là où vous habitez.
Oui, j'ai toujours été dans ce coin-là en fait.
Ouais.
Mes tantes avaient une brasserie qui s'appelait le French Cancan, qui était située Place Blanche, là où il y a le Starbucks aujourd'hui. Ils ont conservé exactement le même pilier, l'endroit du bar. Et je suis jamais rentré en fait. Il va falloir que j'aille prendre un café un jour là-bas. Il y avait la locomotive qui était juste en face, qui était quand même un endroit où il y avait plein de groupes anglais qui venaient jouer et tout ça, que je connaissais par le jukebox et par mes sœurs, qui étaient plus âgées que moi et qui commençaient à écouter beaucoup les Kings, les Beatles, tout ça, les Stones, les Who. Donc il y avait quand même cette culture aussi. J'écoutais beaucoup ça et puis Motown aussi.
Mais à la locomotive, c'est là aussi que vous avez enregistré votre premier disque.
Exactement,
il y avait une petite machine, un petit photomaton qui faisait des vinyles, en fait, c'est ça?
Ouais, et dans un film de Godard, je crois que je me demande si c'est pas masculin, féminin, on voit cette machine, en fait, on mettait 5 francs à l'époque, et puis on pouvait enregistrer sa voix, et puis on avait un disque très épais, comme ça, qui, de la forme d'un 45 tours, qui sortait comme un photomaton, en fait. Et c'était pour la fête des mères, j'avais enregistré une chanson de Hugo Frey. Parce qu'à l'époque, j'étais scout, tout le monde chantait avec la guitare des chansons d'Hugo Frey, enfin les reprises de Bob Dylan par Hugo Frey.
Ça vous a fait quoi, Paris, quand vous êtes arrivé? Ça vous a plu comme
ville? Oui. Je me souviens que pour mon premier Noël, une de mes tantes m'amenait à l'Olympia, par exemple, parce que j'avais bien travaillé. Et donc, je me souviens qu'elle m'avait acheté un pull à col roulé gris et une casquette. Vous savez, à l'époque, il y avait des casquettes avec des oreilles comme ça, pour pas avoir froid.
Ouais.
Je trouvais ça extraordinaire d'avoir froid déjà, parce que en fait, j'avais jamais vu la neige et tout. Donc tout ça était une découverte fantastique. Et je suis allé à l'Olympia voir Petula Clark. Donc l'Olympia est resté pour moi un endroit magique. Hein. D'ailleurs, à chaque fois que je joue à Paris, c'est le seul endroit où j'ai envie de jouer. Peut-être je vais changer un jour, mais c'est vraiment, j'ai l'impression d'être chez moi, ça, même si c'est plus le même, hein, parce qu'il a été déplacé. La première fois que j'ai joué, c'était dans le vrai quand même.
Je crois que c'est quand vous avez 13 ans, vous achetez votre premier disque, qui va être un disque très important, hein, la formation de votre goût. C'est un disque de Pink Floyd.
Oui, je suis rentré le jeudi après-midi, on allait se promener au centre-ville. Et moi, mon truc, c'était les disquaires, donc j'allais regarder les pochettes de disques en rêvant qu'un jour, je pourrais les acheter. Et le garçon qui travaillait dans cette boutique a passé le premier album de Pink Floyd. Alors là, vraiment, amour absolu, immédiat et total pour la musique de Pink Floyd et le climat que Syd Barrett a créé, quoi.
Ouais, vous sauriez dire ce qui vous a tant plu ou ce qui vous plaît toujours autant, d'ailleurs, là-dedans?
On a l'impression de rentrer dans un monde à la fois gothique et à la fois sont comme des comptines, mais comme des comptines macabres.
Ouais.
Donc c'est le monde de l'enfance, mais malgré tout, le monde de l'enfance... d'ailleurs, je crois que Syd Barrett était très influencé par les romans de Beatrix Potter et tout ça, c'est très, très, très british. Hein. Et j'ai ressenti ça, et donc j'ai écouté ça en boucle. Enfin, au bout de quelques mois, j'ai pu le ramener à la maison. Je suppliais le vendeur de le garder. Je venais donner des sous.
Des arts,
tout, quand je pouvais, quoi.
Ouais. Là, vous habitiez déjà à Rennes, en fait.
J'habitais à Rennes,
ouais. D'accord. Donc, c'était The Piper at the Gates of Dawn, c'est ça?
Exactement.
C'était cet album-là.
Ouais.
Et vous parlez de comptines macabres. Après, si on parle de vos goûts musicaux, enfin, vraiment dans les fondements, il va y avoir les albums du Velvet Underground.
Ouais.
Et qui sont aussi des...
deuxième grand amour. Ouais.
Voilà. Aussi des comptines macabres, un peu. Enfin, en tout cas, ou des chansons pop, mais avec des histoires très sombres, avec...
Oui, même si à l'époque, je comprenais pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre les textes. On a souvent l'intuition que les choses s'adressent à nous. Tout de suite, en fait, c'était la voix de Nico, je crois. La première chanson que j'ai vraiment aimée dans l'album du Velvet, c'était Sunday Morning. D'ailleurs, je pensais que c'était Nico qui chantait. En fait, c'est Lou Reed. Et cette chanson qui s'appelle All Tomorrow's Parties, qui est comme une espèce de comptine aussi, mais comme un chant indien, en fait. C'est très particulière. Il y a une espèce de choses très lourdes et je sais pas, ça emporte, quoi. Et vraiment, ça, je suis tombé dedans. Je ne pouvais plus sortir de là.
Et chez Nico, c'est la voix vraiment qui vous a attrapé?
La voix, ouais, cette voix, on ne savait pas si c'était un homme, en même temps, cette beauté fulgurante, quoi. Je me souviens que quand j'ai eu son premier album, Chelsea Girl, son premier album solo, je trouvais qu'elle était tellement belle sur cette pochette que la pochette est restée affichée au pied de mon lit pendant des années.
C'est vrai?
Oui.
Alors cette adolescence, vous avez une adolescence quand même assez libre. Bon, votre mère travaille, vous, ouais. vous faites un peu ce que vous voulez. Ouais. Vous avez plein de copains à Rennes avec qui vous découvrez beaucoup de disques, de ouais. films. Enfin, il y a quand même un gros appétit culturel comme ça. Puis à 14 ans et demi, vous partez à Manchester en été, travailler dans un hôtel.
Oui, c'est vrai. J'avais menti dans ma lettre de motivation. J'avais dit que j'avais 16 ans. Je suis parti, alors vraiment, évidemment, un peu d'inquiétude. Mais je sais pas, je trouvais que c'était quelque chose qui était assez normal. Je voulais comprendre ce qu'il y avait dans ces chansons. Tous les garçons de ma classe, mes copains et tout ça, l'Angleterre, c'était déjà... Bon, c'était les Beatles, les Stones, le Swinging London, tout ça. On était vraiment complètement contaminés par tout ce qui se passait là-bas. On avait vraiment la sensation que c'était là-bas que ça se passait.
Ouais.
Ici, on allumait la télé, c'était Guy Lux...
Vous étiez un peu groom, un peu un truc comme ça
enfin, oui, c'est ça. J'avais une blouse grise et voilà, j'avais monté des plateaux, des sandwichs, des valises. Je faisais un peu n'importe quoi, mais en fait, c'était fantastique. Pour moi, je découvrais le monde sans ma famille et j'avais trouvé un appartement. Il y avait un grand de 18 ans qui travaillait là-bas, qui m'a pris sous son aile. Et alors vraiment, il était tellement incroyable. Pour moi, c'était vraiment... Je voulais vraiment être lui, quoi. Donc, je voulais faire tout ce qu'il faisait. Il m'a fait faire beaucoup de conneries. Mais vraiment, j'étais fasciné par lui. Mais j'ai gagné des sous, j'ai pu acheter des disques là-bas. Et puis, j'ai pu m'acheter un vélo moteur.
Et puis après, en fait, bon, vous vous dites que vous allez devenir graphiste. Vous faites un passage rapide en doc d'art plastique. Puis bon, finalement, vous faites une licence d'anglais. Et puis surtout, vous commencez à aider un copain à vous, Hervé Bordier, à Rennes, qui lui organise des concerts. Ça vous plaît énormément. Et donc, il y a cette date qui est un peu fondatrice dans votre parcours, dans ce que vous allez devenir par la suite. Donc, le 20 décembre 1978, vous organisez ensemble un concert des Stinky Toys à Rennes. Les Stinky Toys, ils ont déjà un nom à Paris, ils ont déjà quand même. Donc, il y a toute une bagarre pour savoir qui va faire la première partie entre les Stinky Toys et le Marquis de Sade. Bon, finalement, il y a deux concerts qui suivent. Et puis, bon, ce concert est un peu mythique, les gens passent sont payés, donc bon, voilà. Mais vous rencontrez les Stinky Toys, en fait.
Quand j'ai vu tous les gens passer par-dessus les barrières et que vraiment, ça laissait augurer d'un futur un peu compliqué financièrement, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. En fait, tout ça, c'était pour rencontrer vraiment ce groupe où vraiment, voilà, très loin comme ça, il y a comme une famille d'esprit, je savais, quoi. Il y a l'intuition. Je trouvais leur texte déchirant, la voix d'Eli déchirante. Je les trouvais sublimes, tous les deux, mais pas que. Bruno Caron était quand même très, très mignon aussi. Les Zenouda aussi. Et puis, c'était des virtuoses, quoi. Je me suis mis au premier rang et j'ai regardé le concert. Et vraiment, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Leur look était incroyable, l'énergie des chansons, la complexité des compositions, véritablement. Et puis, voilà, ils disaient qu'ils aimaient les Stooges et Françoise Hardy. À l'époque, c'était interdit. Quand je disais que j'aimais les Beach Boys, par exemple, on se foutait de ma gueule. Quand je disais que j'aimais Françoise Hardy aussi, c'était pareil. Donc, il y avait des espèces de clivages un peu snob comme ça, où on était autorisé à n'aimer que certains groupes. Voilà. C'était Bowie, Lou Reed, les Stooges, et puis après un peu Talking Heads, enfin toute la vague qui est arrivée.
Moi j'adorais Blondie,
les B-52s et tout ça. J'adorais le côté un peu plus pop et un peu plus fun quand même, un peu plus. Mais j'adorais évidemment les Stooges, Iggy. Enfin, c'est vraiment ma culture hein, ça. Mais j'aimais aussi les yéyés, j'aimais la pop. Pour moi, si j'entendais une chanson de Sylvie Vartan, vraiment très années 60, je sais pas, quand tu es là, ou vraiment au tout début, quand elle a cette voix rauque comme ça, et qu'elle chante du rock, vraiment c'était une madeleine pour moi, j'adorais ça, et j'avais pas honte de dire, j'aime ça, je m'en foutais, quoi.
Et quand vous dites justement, c'est une famille d'esprit, les Stinky Toys ou d'autres gens ensuite que vous allez rencontrer, est-ce que vous, à l'époque, vous aviez l'impression que c'était vraiment les êtres avec qui vous pouviez être le plus connecté en fait, c'est-à-dire parce qu'il y a quelque chose d'un peu irréel là-dedans.
Oui. J'ai su tout de suite. Et Nico d'ailleurs, je l'ai rencontré la première fois avec Hervé Bordier. Il a organisé un concert et pour l'aider, je suis allé coller des affiches. Donc j'avais la sensation de contribuer à quelque chose. Et puis après, je l'ai rencontré. Donc elle était en manque, donc j'avais quelques connexions, je suis allé lui chercher des choses pour calmer un petit peu son manque. Mais c'était fantastique de rencontrer Nico, enfin, vraiment.
Vous étiez vraiment fan ou c'était... Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de... C'était une nécessité vitale pour vous, en fait.
C'est une gratitude, en plus du goût d'écouter à la fois la musique et que ça me procure de telles émotions. C'est aussi... on se fabrique, on se construit, on grandit, on est dorloté par les artistes qu'on aime. Les films, la musique, enfin, ça a été la musique surtout pour moi, mais aussi les livres, enfin, ça a beaucoup compté. C'était une enfance qui était, une enfance, une adolescence qui était un peu grise. Hein. Donc, c'était important pour moi, ça me permettait de m'ouvrir autre chose, que ça ouvrait des mondes fabuleux.
Après ce concert là, des Stinky Toys à Rennes, bon, il y a une tempête de neige, il fait hyper froid, ils finissent par dormir chez vous.
On n'a pas dormi, on a bu toute la nuit.
Voilà, vous avez discuté.
On s'était massé autour d'un radiateur que ma voisine de palier m'avait prêté. Et donc, on a parlé toute la nuit, on a écouté plein de musique. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, à un moment donné où j'étais, je pense, ivre mort, je dis, mais moi aussi, je fais de la musique. Et là, tout le monde m'a regardé, du style, ah bon ? Quelques mâchoires sont tombées, enfin, les gens qui me connaissaient. Et donc, c'est là, la première fois où j'ai dit que je faisais des chansons.
Vous écriviez des chansons, ouais.
J'écrivais des chansons, ouais. Depuis l'âge de 14 ans. Je crois que la première s'appelait « Attendre ».
Et Lee Medeiros vous a dit « Ben super, fais-le quoi ».
Elle a dit « Fais-le, c'est bien ». Voilà, je me souviens de sa phrase, elle a dit « Fais-le, c'est bien ». Et donc c'est la première à qui j'ai envoyé ces maquettes que j'ai fait avec Richard Dumas. Donc voilà, on a enregistré mes petites compositions, il y avait 9 titres, sur une cassette, guitare et voix, que je suis allé présenter à Paris dans une maison de disques où je me suis fait jeter, mais vraiment... Le DA m'a dit, mais vous ne signerez jamais de toute façon. Et donc, il y avait à la fois tellement d'espoir dans ce rendez-vous, et à la fois, c'était tellement brutal, ça te fait jeter comme ça sur le trottoir, que notre réaction première, c'était mais vraiment d'avoir un fou rire énorme. Et on a repris le train, on est rentré à Rennes, et
ouais.
Voilà.
Je me demandais, vous avez jamais douté, parce que vous dites, dans le livre, quand vous sortez, vous dites, il a rien compris. En fait, c'est nul, c'est il a rien compris. Et ça, je trouve ça génial parce que je me demandais si vous avez jamais douté de vous, artistiquement.
Alors, forcément, j'ai des doutes. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui est un. J'ai comme un élan perpétuel qui fait que j'avance. Je ne peux pas expliquer ce que c'est. Parce que, à la fois, bien sûr, quand on fait ce métier, on a des doutes sur le fait que est-ce assez bien ? Est-ce assez authentique ? Est-ce qu'on a vraiment dit exactement ce qu'on voulait dire ? Ce sont des interrogations. Mais j'ai eu toujours cet élan qui m'a poussé, malgré que j'étais très réservé, que j'étais pas du tout celui qui montait sur la table. Et c'est pour ça que tout le monde était très étonné, que tout d'un coup, je me retrouve sur la scène des transmusicales. Et que ça se fasse, que les choses se fabriquent.
Oui, parce qu'elles se sont faites. Vous avez signé donc finalement un premier album avec Virgin, c'est Mythoman.
Ouais.
Au départ, vous vouliez faire un disque de bossa nova. Vous racontez, vous adoriez Caetano Veloso,
oui,
et
voilà.
Puis, même si c'est pas un chanteur.
Il y a un album qui s'appelle Domingo, qui est extraordinaire. J'adorais la voix d'Astrud Gilberto. J'adorais la voix aussi de Chet Baker dans un autre genre. C'était des voix qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé parce qu'elles ressemblaient un peu à la mienne.
Ouais.
Elles ressemblaient un peu à une voix comme ça où il n'y a pas d'affect. Une voix qui est droite, où on peut dire des choses terribles, c'est un cri calme, en fait. Et oui, je ne me suis pas posé la question, j'ai chanté comme ça, et ma voix était la même, tout de suite. J'ai eu ma voix tout de suite. Je n'ai pas cherché à la modifier. Parfois, je suis surpris quand j'entends des gens parler par rapport à leur voix chantée, je la trouve très différente.
Ouais.
Ça me surprend toujours, je suis toujours étonné.
Et Mythoman, donc premier album, bon, qui aura des très bonnes critiques, il n'y aura pas énormément de ventes, mais enfin, vous êtes respecté. Et vous dites ce disque, il y a déjà tout dedans. Il y a une chanson qui s'appelle Il ne dira pas, c'est vrai, qui parle énormément de vous, du déni.
C'est drôle parce qu'en fait, dans cette chanson, et je m'en suis rendu compte que très très longtemps après, hein, je liste tout ce dont j'ai évité de parler pendant des années. Mais tout. Donc c'est pour ça qu'elle est hyper drôle, parce que en fait, j'annonce la couleur d'une certaine manière. Je dis, voilà, je vais pas parler de ça, 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 ça et ça.
Ouais.
Dans une chanson qui était mon premier single. C'est ça qui est étonnant, mais et qui est hyper drôle, après coup. Quand on écrit ou quand on fait certaines choses, particulièrement de la musique, le sens vient après. Ça m'est arrivé souvent que le sens de mes chansons me vienne après. Il y a une espèce de forme d'hypnose quand on écrit, parce qu'on n'est pas dans le contrôle de soi. On est dans une espèce de moment de connexion. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'en fait, il m'arrive très rarement de me rappeler dans quel état ou le moment où j'ai écrit une chanson. Une fois qu'elle est écrite, parce qu'à un moment, on sait que c'est ça. On sait qu'on ne peut pas rajouter un mot ni une virgule. On peut tourner autour longtemps, longtemps, longtemps. Ou alors, une chanson peut arriver d'une manière très, très rapide. Mais on sait, il y a un instinct de savoir quand elle est là, quand il n'y a plus rien à changer, quand elle est juste, en fait.
Vous avez toujours écrit à partir de votre vie, ma petite histoire, comme dirait Barbara. Enfin, j'écris mes petites histoires.
Oui, j'ai pas assez peut-être d'imagination pour faire de la fiction. Ouais, c'est toujours lié à des choses qui sont dans ma vie.
Ouais. 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 Et c'est quelque chose qui vous touche dans les œuvres des autres, c'est-à-dire les œuvres qui parlent, où les gens parlent vraiment d'eux, enfin, ou s'inspirent d'eux, enfin, des œuvres très proches comme ça.
Ça ou... se sent quand les gens parlent vraiment d'eux-mêmes, ou quand il y a une habileté à écrire. Il y a des gens qui sont très habiles, très adroits, qu'on peut admirer stylistiquement, mais qui ne sont pas touchants. Surtout l'écriture de certains hommes qui prennent l'ironie pour masquer un petit peu leur sensibilité. Je peux être touché par l'adresse, la manière d'écrire, le côté technique, en fait, mais pas trop touché. C'est pour ça que j'ai adoré Françoise Hardy, parce qu'elle a parlé quand j'étais adolescent, et même toujours. Je trouve que vraiment, c'est un témoin et un auteur fantastique pour... témoigner du tourment de l'âme humaine, de la solitude, de l'amour-passion.
Vous en avez bien parlé aussi dans Le Grand Sommeil. Ça, c'était le single qui est juste après Mythomane.
Ah oui, c'est
que
vrai,
vous
le
sortez. Grand Le Grand Sommeil, c'est une chanson de rupture, de deuil, enfin une mélancolie.
De suicide.
Oui, une incapacité à continuer, en fait.
C'est un suicide, mais en fait, elle était comme c'était Guy Ray. C'est bien de faire des chansons comme ça, avec des contrastes entre la musique et le texte.
C'est très Velvet,
ça. Parce qu'il y a toujours deux
ça,
lectures. Ouais. On ne sait pas sur quel pied danser, on peut découvrir les choses longtemps après. Ça, j'aime bien.
Ouais.
Et Le Grand Sommeil, c'est un petit tube pop électro, guiré, comme ça, dont le texte n'est apparu que beaucoup plus tard. Mais ça m'a ouvert tout grand les portes des radios. Et ça m'a sauvé les fesses chez Virgin, parce que Virgin Angleterre voulait me virer. Et quand ils ont écouté les 7-8 titres qu'on avait enregistrés, ils ont dit « c'est celle-là ». Je me suis dit « tiens, c'est celle-là ». Et voilà, et elle est sortie, et ça a été le moment où tout s'est ouvert, en fait, d'une certaine manière. Ça n'a pas été un succès, véritablement, mais j'ai été identifié comme quelqu'un qui avait une valeur, en tout cas. C'était le moment où vraiment, j'ai senti que ça pouvait arriver, où je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Je me suis dit à moi-même que véritablement, j'avais l'ambition de ça, alors qu'avant, je n'osais pas trop le dire. En fait, je l'ai fait, je donnais une sensation comme ça de dilettante, alors qu'en fait, ça comptait énormément pour moi.
Ouais, c'est le plus important pour vous.
Oui, c'était la survie. Mais ça se voyait pas.
Non, mais chez vous, ça, pendant longtemps, ça s'est pas vu, hein, parce qu'il y avait quand même toujours cette espèce de représentation de la légèreté.
Mais j'avais aussi... j'étais léger aussi. L'époque était légère, j'arrivais à Paris, on me trouvait super, les portes s'ouvraient... Je rentrais dans des boîtes où je me faisais jeter 6 mois avant. Donc j'avais 50 copains qui rentraient derrière moi comme ça. Enfin voilà, il y avait tout un truc d'arriver à Paris et d'être fêté, d'être apprécié. Donc c'était génial. Donc il y a eu plein d'années où véritablement il y a eu cette légèreté et j'en ai vraiment profité. Il y a les deux aspects qui cohabitent vraiment en moi aussi. Hein.
Totalement.
Il y a des choses probablement beaucoup plus sombres parce que je les ai connues, mais avec lesquelles j'ai fait ami-ami. Mais aussi, j'ai eu une grande envie de m'amuser. J'aime la légèreté. Je trouve que c'est beau, la légèreté.
Ouais.
J'aime la légèreté chez les autres. Vraiment. Voilà, c'est une politesse aussi, la légèreté. De ne pas assommer les autres avec ces merdes, quoi.
Ouais, ben, Weekend à Rome, c'est le titre. Parfaitement léger,
ah oui.
Dans cet album La Notée.
Mais, alors je dois dire que je pense que c'est une chanson qui est restée et qui reste encore et qui me symbolise encore, qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas celle qui a le mieux marché, mais elle symbolise un moment de légèreté. Et je pense que ce qui plaît véritablement aux gens, c'est la légèreté qu'il y a dans cette chanson.
Il y avait cette pochette de Pierre et Gilles, enfin, c'est resté associé avec une iconographie très forte, une époque
magnifique
comme ça.
Magnifique image.
Magnifique. Ouais. Vous avez du mal à la trouver, votre image. Pour le premier album, c'est Elie Medeiros qui s'était occupé un peu de vous dire on va faire comme ça,
elle
tu vas t'habiller
dit,
comme
on
ça.
On va travailler avec Antoine Giacomoni qui te ressemble un peu, qui est un peu comme ton frère. Et elle avait raison. Et chez Antoine Giacomoni habitait Nico, justement. C'est là où je l'ai retrouvé. Puisque son frère avait produit. L'album de Nico qui s'appelait Drama of Exile. Et donc, Nico habitait dans cette maison, on faisait des photos, tout ça. Il y avait toute une espèce de ruche avec plein de gens qui bougeaient, qui habitaient là. C'était très fort pour moi. Et donc, on a fait cette image qui est une image complètement floue, en fait. Et c'est ça que je voulais parce que c'était l'image que je voulais donner, j'imagine.
Mais vous, vous aviez une idée de votre style, de comment il fallait vous habiller, de quelle image vous vouliez projeter?
Pas du tout. D'abord, au départ, enfin, adolescent, c'était du troc, les fringues. Je te prête mon imperméable pendant 2 mois et tu me passes ce pull que je trouve super. Et puis, les vêtements circulaient, quoi. Quand j'ai commencé à chanter, on me prêtait des fringues pour aller faire des télés. J'avais évidemment pas les moyens de m'acheter quoi que ce soit comme vêtements. Donc je faisais des choses avec des vêtements 12 fois trop grands. Ma première tournée, je l'ai faite avec un costume de fripe où la ceinture a cassé. Je me suis quand même retrouvé pendant un concert avec mon pantalon sur les genoux. Quand
même. C'est vrai?
Oui. Et c'est Ellie qui m'a vu, en fait. Et un photographe qui s'appelle Pierre-René Worms qui m'a suivi tout de suite, qui a vu quelque chose chez moi dont j'étais, alors personnellement, totalement inconscient. J'avais aucune idée de qui j'étais. Je voyais que je plaisais. Enfin, je veux dire, mais c'était l'époque qui était comme ça, d'avoir une vie de séduction sexuelle très, très, très agitée, parce que c'était comme ça qu'on vivait, puis que c'était marrant, voilà. C'était amusant.
C'était « je veux goûter à tout », quoi, après. Vous
oui, c'était chanté. Ça. C'était, ouais. Ça. Mmh. C'était un jeu auquel on peut prendre goût.
M. Le goût de M.
Vous avez connu ensuite un grand succès avec Tomber pour la France en 85. Bon voilà, vous avez ensuite sorti énormément de très très bons albums. Si on parle de justement l'évolution de votre goût à vous, il y a des albums qui ont été assez décontenançants, soit pour la maison de disques, soit pour le public. Je pense à Pop Satori, je pense à Eden, des disques comme ça. Vous avez toujours eu le besoin, enfin vous le dites, de déconstruire, enfin de changer de forme à chaque fois, de changer de son aussi.
Ça me semble une manière logique de et d'évoluer et de ne jamais être dans mes pompes ou de me lasser. Ou... Et puis je sais pas, je crois que je fonctionne comme ça. Enfin, j'essaie de trouver des raisons, mais en fait c'est comme ça. Une fois que quelque chose est fait, j'ai plus envie de le refaire. Donc après, le truc c'est d'amener les gens par la main et de vous suivre dans vos recherches. Il y a des gens qui détestent Blitz, par exemple, et d'autres gens qui me découvrent avec cet album,
ouais.
Le dernier, et qui l'adorent. Je pense que ce qui est important, c'est la durée, en fait. C'est de continuer à faire ce qu'on aime, comme on a envie de le faire, la manière la plus proche de soi-même possible. Ça finit toujours par arriver, en fait. Les gens finissent toujours par le comprendre ou par finalement revenir dessus. Même Pop Satori, au départ... était très très mal perçu, de manière dont il sonnait, alors qu'en fait, tout d'un coup, il a commencé à marcher, on a commencé dans les tournées, on jouait dans les clubs, on a fini dans des patinoires.
Vous avez du mal, vous, à ce moment-là, justement, avec le côté qu'on appelait la Daomania, enfin...
Oui.
Ouais.
Enfin, à la fois, oui, parce que je travaillais avec cet attaché de presse que j'adorais, qui est devenu ma famille, qui s'appelait Tony Krantz, elle a vraiment contribué à ce que ça s'ouvre. Vraiment, je lui dois d'avoir touché un public beaucoup plus large. En même temps, le succès, c'est quand même c'est une force, c'est une énergie. Je me suis aperçu que le succès me permettait d'avoir un îlot de protection.
Ouais.
À savoir que tout d'un coup, d'avoir à chaque fois la maison de disques qui me disait « Non, cette pochette, ça va pas, ce titre, c'est pas ça. Tomber pour la France, il voulait l'appeler « Tout va bien ». La pochette de la noter, il n'en voulait pas. Pop Satori, ils ont détesté la première écoute. J'étais entêté, quoi. Je ne démordais pas des choses, quoi. Je n'ai jamais cédé un centimètre, à part à Tony Krantz, à un moment donné. Mais en même temps, ça m'a aidé à avoir une popularité qui a été une force.
Ouais.
La force surtout de dire oui, non, merde, enfin, d'avoir une autonomie et la confiance de la maison de disques, des médias.
Ouais, ou de faire des projets comme vous avez fait avec Jeanne Moreau, par exemple.
Oui, oui.
Condamné à mort, de Jeunet. Jeunet, c'est votre goût, ça? C'est quelque chose qui a été important pour vous?
Oui, ça l'est toujours. Le funambule, fantastique. Pour quand on est un artiste, c'est vraiment le livre qu'il faut lire. Parce qu'il y a tout dedans. Il parle de l'isolement, de la représentation, de comment c'est difficile de créer, de se renouveler, de ne pas se perdre. C'est un livre fantastique. Je l'ai enregistré avec Jeanne, d'ailleurs. Il n'est jamais sorti, c'est resté inédit. Au moment où on a enregistré le Condamné à mort, on avait envie de continuer ensemble. Vraiment, on s'est trouvé, quoi. Enfin, comme dans une famille, on s'est passionnément aimé, quoi. Parce qu'on a eu envie de la même chose ensemble, et d'abord de porter ensemble ce Condamné à mort comme un drapeau. C'était fantastique, et de l'amener vraiment vers un public qui n'était pas du tout préparé à ça, Ce sont des contributions à l'ouverture. Je trouve ça important.
Comme ça, si on regarde votre œuvre, vous disiez, j'ai peut-être fait toujours le même disque. En même temps, entre Il ne dira pas et Boulevard des Capucines, il y a un trajet considérable, c'est-à-dire dans le fait de dire les choses, de se rapprocher de soi.
Oui, parce que la maturité, le travail sur soi font que forcément, on remet les choses là où elles doivent être. Ce qui était très grave ne l'est plus. Ce qu'on pensait être des choses secrètes ne sont pas secrètes. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire des interviews et tout ça, je me faisais engueuler par ma mère, qui me disait « Mais non, mais tu ne peux pas parler de nous, on n'a pas choisi d'être exposé, c'est toi qui es exposé. » Et comme je suis dans une famille qui est très bavarde, très bruyante, mais qui ne parle pas des choses essentielles, parce que c'est marche ou crève, c'est vraiment, s'il y a une espèce de chose comme ça, d'être fort, de ne jamais se plaindre, véritablement. Et donc, j'étais confronté entre le fait de dire des choses qui me paraissaient être ma vie et puis en même temps d'avoir la sensation que si je disais que c'était très grave, qu'il fallait se taire, en fait. Et un jour, j'ai compris que voilà, que ça suffisait, que j'avais pas d'horribles secrets et que j'ai rien à cacher.
Le goût de M.
Alors là, on est dans... Ouais, c'est un genre de salle à manger. On va l'appeler comme ça. Et puis, on arrive dans un salon.
Ça ressemble à quoi, ce salon ?
Alors, ce salon, il y a deux canapés avec des poufs carrés, blancs, ou crème. Là-bas, il y a plein de bouquins qui sont plutôt des bouquins sur la musique avec beaucoup de magazines. J'en avais plein. Mais je m'en suis débarrassé parce que j'en avais beaucoup trop.
Et là, c'est le coin disque.
C'est que des disques. Ouais, que des disques, ouais. Et ben voilà. C'est un endroit qui est tout en bois, ça fait penser un peu à Twin Peaks. Là, c'est une photo de mon héros, qui est Syd Barrett. Là, il y a un endroit où je répète mes chansons. C'est là où j'ai les textes, et puis je prends des notes.
Je vais les enregistrer un peu. Ouais,
non, non, je répète. Chanter, juste pour chanter.
Ouais, ouais.
Là, c'est un tableau qu'a fait Dougie Fields.
Ouais.
Dougie Fields, c'est un postmoderniste qui était... très grand ami à Londres, qui est mort l'année dernière. Et donc il y a tout un peu dans ce tableau. Il y a mon goût pour la soul, on voit les Supremes, les Temptations. Il y a Marilyn Monroe, il y a des nonnes un peu énervées. Il y a Londres au fond, il y a Bardot devant. Là, c'est George Dyer, qui était la muse de Francis Bacon. Et puis là, il y a un chat qui a l'air un peu arc-bouté sur lui-même.
Étienne Dao, on est chez vous. Vous avez quelle relation avec les objets qui vous entourent ?
J'ai pas grand-chose. Les objets, si on peut considérer que ce sont des objets, mais ce sont des objets vivants, sont les livres.
Ouais.
On rentre chez moi, il y a tout de suite cette bibliothèque, il y a plein de bouquins, et puis plein de vinyles. C'est tout, j'ai rien d'autre. Enfin, je suis pas attaché à autre chose. Je suis attaché à des petits objets personnels, parce qu'ils me rappellent quelqu'un que j'ai aimé, une passion, enfin, mais tout ça... Mais il y a vraiment peu de choses. En fait, l'endroit, c'est vraiment cette cuisine avec tout. Il y a des projections de tout. Des cartes postales, des mots de Marianne Faithfull, de Jane Birkin, les cartes postales de Noël de John Waters, des encadrements d'artistes que j'aime, des petits mots qu'on m'a envoyés. Voilà.
Ouais, c'est ça là, qui compte pour vous, vraiment.
C'est ici, vraiment. Ouais, c'est là où ça se passe, en fait.
Le reste, c'est pas très important.
Ben non. En plus, j'ai vécu très longtemps à Londres, dans un petit endroit qui était grand comme ma cuisine, et j'avais rien. J'avais 4 bouquins, 3 slips, et une brosse à dents, et j'ai trouvé que c'était fantastique de ne rien avoir.
C'est vrai ?
Ouais, vraiment. Et j'ai vécu longtemps là-bas, et je me suis habitué à ce côté spartiate, hein, probablement qu'une réminiscence de mon adolescence, avec ma mère, on vivait d'une manière très spartiate. On n'avait pas de bagnole, pas le téléphone, tout ça. Et ça me va, et j'aime bien ça, en fait. Quand je suis rentré à Paris, que j'ai vu qu'il y avait... Je trouvais qu'il y avait trop de choses, en fait. Je trouve qu'il y a trop de choses. Mais je ne peux pas me dessaisir des bouquins ou des disques. C'est impossible. Je suis vraiment, véritablement très attaché à ça.
Et vous continuez à en acheter beaucoup ?
Je consomme assez peu, en fait. Mais quand j'aime un disque, oui, vraiment, ou un livre, je sais pas, enfin, quelque chose qui me plaît, je l'achète. Mais peu. Et en fait, il y a finalement très, très peu de disques dont on tombe véritablement amoureux. Et qui durent, qui vous accompagnent, qui sont là pour vous entourer, que vous allez mettre encore du temps à découvrir. On découvre toujours des choses. Là, par exemple, je viens d'acheter en vinyle un disque d'une artiste qui s'appelle Norma Tanega, qui était la girlfriend de Dusty Springfield. J'ai une passion pour Dusty Springfield. Et je savais que Norma Tanega avait écrit des chansons pour elle. J'avais jamais entendu ces disques. Et quand j'ai écouté ces disques, vraiment, j'ai eu un coup de foudre pour sa voix, pour la manière dont elle chante. Il y a quelque chose il y a une urgence. Et en même temps qu'il y a cette urgence, il y a une douce colère. C'est très, très beau, ce disque. Je le recommande violemment.
Vous avez beaucoup eu des passions pour des femmes avec des destins quand même très durs, très cabossés. Vous parlez de cette femme, de Springfield aussi, c'est dur sa vie. Nico, oui. N'en parlons pas. Enfin, c'est quand même des destins toujours.
Mais les grands destins, c'est ça. Ouais. Un destin de femme ou un destin d'homme, c'est des tas d'embûches. On fantasme sur le bonheur et sur les moments de félicité ou de calme ou de répit, on va dire. Non, on doit lutter sans arrêt, quotidiennement, pour être debout, pour être soi-même, pour être respecté pour ce qu'on est, pour vivre selon ce qu'on est véritablement, et essayer de ne pas correspondre à ce que les gens pensent de vous, mais ce que vous êtes vraiment. Et c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué aussi quand on est devant, parce qu'on vous enferme souvent dans quelque chose. Il faut lutter longtemps pour finalement modifier un peu la perception qu'on peut avoir de vous. Et là, comme ce bouquin est sorti, ce bouquin parle d'un parcours de conquête. Moi, je suis un homme fort, vraiment, de la conquête. Et j'ai la sensation d'avoir vraiment surmonté et transformé tout ce qui aurait pu être des plombs aux pieds et tout ce qui aurait pu être du chaos. Et il y en a eu. Mais je l'ai transformé. Et alors, quand je lis des choses, c'est genre, il a été abandonné par son père, la guerre. Il y a tout un truc de côté chialeur, ouais. Victime, qui est insupportable parce que c'est tout sauf moi. Et donc, quand je vois ça me rend dingue. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai trajet de conquête chez vous. Enfin, une force incroyable. Après, il y a eu ce moment aussi où vous avez fait un... où il y a eu un arrêt. Enfin, il y a eu un moment où vous ne pouviez plus. Puis vous avez écrit...
C'est mon corps qui a lâché, en fait. Oui. Parce que vraiment, je me sens très costaud physiquement, j'ai une très bonne santé et une capacité à beaucoup travailler. Et à l'époque, je travaillais énormément. La première décade, ça a été une folie de promo, de travail, d'enregistrement et ça, mais beaucoup de fêtes hein, et beaucoup d'excès, de dormir 3 secondes par nuit. Mon corps, au bout d'un moment, a dit stop. Et ce stop... il a été assez brutal. Enfin, c'était vraiment une pancarte monstrueuse dans laquelle je me suis cogné et qui m'a assommé pendant 2 ou 3 ans, mais qui a été très, très, très bénéfique parce que ça m'a permis d'abord de faire un travail sur moi, d'abord de rencontrer la bonne personne qui m'a aidé à remettre les choses à leur place tranquillement. Ça m'a aidé à me dire qu'en fait, une certaine forme de popularité ne me convenait pas du tout, que c'était pas pour moi. Et ça, c'est important aussi de le savoir, que l'exposition ne me va pas, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse ce métier que j'aime et que j'adore, mais selon mes règles. Et donc j'ai fait cet album qui s'appelait Résurrection avec le groupe Saint-Étienne, qui était un pied de nez, qui était drôle, parce que Résurrection, ça voulait tout dire. C'était « je bande toujours, je suis en forme, je ne suis pas mort ». Et puis de faire cet album dont je suis hyper fier. Puis après, ça m'a permis d'avoir un futur, de continuer à travailler, de faire mes disques comme je voulais, qu'il marche, mais sans trop d'exposition, d'exister sans être trop là. Y a des gens encore, parce que je fais pas les Restos du Cœur, qui me disent « Mais vous faites toujours de la musique hein. !» Et alors que j'ai rarement autant bossé que depuis 20 ans. Moi, pour les autres. Enfin.
Vous parliez de la scène, et puis dans le livre, là, dans la dernière partie, là, on voit... toutes vos tenues de scène, je crois que vous avez donné au musée Galliera, je crois,
ouais,
c'est
tout.
Ça. Et c'est génial de voir l'évolution comme ça, de style. Puis, vous dites que c'est un peu comme des armures, en fait. C'est-à-dire, il y a eu des époques où vous étiez habillé par Agnès B, par Paul Smith, là récemment, puis de longues années par Eddie Slimane, dont vous êtes amis. C'est quoi pour vous les tenues de scène?
Oui, j'ai choisi le costume tout de suite. Et d'ailleurs, la première fois que je suis passé au Transmusical, j'avais attaché beaucoup d'importance à mes vêtements. Il y avait un couple de mecs qui avait à Rennes, qui avait un magasin qui était super. C'était vraiment le magasin le plus branché et tout ça. Ils m'avaient prêté des vêtements pour ma première tenue de scène. Donc j'avais vraiment une tenue. Je m'étais dit comme ça, si je suis nul, moi je serais bien habillé. Et puis après, j'ai toujours voulu avoir un costume parce que le costume, ça vous protège. Il y a une espèce de chose où on rentre dedans. Ça fait partie, en fait, le vêtement permet, quand on rentre dedans, de se mettre dans la peau de celui qui va s'exposer. Parce que s'exposer, c'est pas évident. C'est quand même un truc un peu contre nature. Et ça permet de se renforcer, d'être dans celui qui va s'exposer.
Mais dans l'imagerie qui vous plaît, justement, je vois très bien la tenue dont vous parlez, là, qui était avec des influences un peu cow-boy. Après, il y a le blouson rouge que Ellie Medeiros vous offre, qui est très James Dean. Il y a ce perfecto que vous mettiez tout le temps aussi, qu'on vous vole à un moment.
Ah oui.
Dans l'imaginaire, des choses qui vous plaisent, elles sont très liées à... C'est quoi? C'est un imaginaire américain et anglais? C'est lié à la musique? C'est lié... Qu'est-ce qui vous plaît?
J'ai travaillé aussi avec des créateurs, des artistes qui aiment la musique, qui ont un lien avec la musique. Agnès B a un lien avec la musique, Paul Smith aussi,
ouais.
Évidemment Eddie, mais toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ont un lien avec la musique. Ils aiment la musique et donc ils comprennent aussi la position, quelle est la position de celui qui va monter sur scène, comment accompagner cette chose-là. Et c'est d'abord une tenue de sport, parce que c'est très athlétique de chanter pendant 2 heures. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, parce qu'on transpire, on est en nage et on perd 25 kilos en une tournée. Il faut que ce soit... que ça vous aille bien, qu'on se sente bien dedans, qu'on se sente beau, en fait. Mais là, j'ai fait péter la paillette là, depuis quelques tournées. Au départ, j'étais vraiment dans des tenues vraiment hyper strictes, du noir ou du bleu marine. Et puis là, depuis quelques années, vraiment, je mets des choses qui brillent. Ça me plaît, j'ai envie d'avoir de plus en plus des choses qui brillent, de la paillette, de briller, j'ai envie de briller, quoi.
Et dans la vie...
Voilà, on va rentrer dans une nouvelle étape de ma vie.
C'est chouette.
Glitter, vraiment peut-être, je sais pas, je vais devenir Liberace.
Et dans la vie de tous les jours, vous avez quelle relation avec les vêtements?
C'est complètement basique, voilà. J'achète très peu de choses, parce que d'abord, j'ose pas rentrer dans un magasin, sortir sans acheter. Je me sens obligé d'acheter des trucs que je porterai jamais. Donc si un truc me plaît, j'achète ça en X exemplaires pour être peinard. Donc quand il y a de la représentation, ouais, ça me plaît d'essayer des trucs et d'essayer d'être un peu moins invisible que dans la vraie vie.
Au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou vous pensez que vous aimez toujours la même chose?
Je crois qu'on ne change pas. Je crois qu'on aime toujours la même chose et qu'on affine et qu'on se dessaisit de ce qui ne vous convenait pas en fait et que vous pensiez que ça vous convenait. C'est la merveille de vieillir, c'est ça, ou de prendre de l'âge, ou de maturer. C'est d'être de plus en plus son meilleur ami et d'être vraiment au plus juste de soi, même si il y a encore plein de scories qu'il faut dégager. On est élevé et on pousse avec des injonctions de toutes parts pour devenir celui qu'on n'est pas, finalement. Et tout le travail de déconstruction qu'il y a à faire après est phénoménal, je trouve.
Mais en même temps, chez vous, ça n'empêche pas une curiosité. Vous avez toujours eu de la curiosité pour des rencontres, pour des nouvelles musiques. Et vous continuez à être très en phase avec... vous entretenez des liens avec des artistes de la nouvelle génération. Vous avez collaboré avec Fabien Berger, tout ça. Bon, pas mal. Clara Luciani, Yann Wagner, d'autres.
J'ai pas de sensation de différence d'âge, en fait.
Ça, ça n'existe pas pour vous?
Non, j'y pense pas. Alors, je vis comme un petit jeune homme. Hein.
C'est-à-dire, vous sortez toujours? Ça vous intéresse toujours?
Quand je peux, ouais.
Ouais.
Bien sûr. Mais je supporte pas les gens de ma génération qui trouvent que c'était mieux avant. Il y a des trucs que je trouvais mieux avant, hein, effectivement. Ça, je peux pas dire le contraire. Le fait de pas être joint, de pas avoir 125 mails de réveil, ou d'être joint par téléphone, et ça c'était quand même un luxe fabuleux d'être anonyme, de pas être traçable. Je me souviens quand j'ai vécu à Londres la première fois, quand je me suis un peu isolé dans les années 90, j'avais un fax. On ne pouvait me joindre que par fax. C'était un peu revêche, mais c'était tellement bien.
Ouais, et puis à Londres, vous étiez assez anonyme.
C'était fantastique, vraiment, mais cette liberté, ça fait partie de ma guérison, hein, quand même. Mais globalement, si on trouve que c'était mieux avant, on est foutu. Donc moi, je suis pas comme ça. J'embrasse ce qui est nouveau. J'ai envie que ça me plaise. J'ai envie d'avoir des coups de foudre pour des disques, pour quelqu'un. J'ai envie d'être amoureux. J'ai envie de tout, en fait. J'ai beaucoup d'appétit.
Ouais,
j'ai envie de faire des disques qui marchent. J'ai envie de tout ça, quoi.
Ce goût pour l'amour, vous l'avez... Enfin, pour être amoureux, plutôt. Pas pour l'amour en tant que...
C'est une dope. Qu'idée. C'est une dope pour moi. J'adore cette sensation... d'avoir des papillons dans le ventre, d'avoir cette chose, de penser à l'autre, d'attendre un coup de fil, d'être ébloui par quelqu'un, d'admirer quelqu'un, de désirer quelqu'un. J'ai ça vraiment, je pense que jusqu'à ma mort, je pense que ce sera comme ça.
Ouais, vous dites la beauté, ça m'émeut.
Je suis ému par la
très
beauté.
Très sensible. Ouais.
Je suis ému par la beauté, mais peut-être que la beauté, c'est très très relatif, hein. Alors, on peut trouver quelqu'un qui a des dents complètement tordues, fabuleusement beau.
Bien sûr.
ou des oreilles trop grandes, ou je sais pas quoi, enfin, qui sort des canons de beauté. La beauté, c'est autre chose. La beauté, c'est toute une énergie, en fait. C'est pas les traits. C'est une énergie que transporte quelqu'un. Et j'ai pu avoir des passions pour des femmes ou des hommes que je trouvais sublimes, juste parce que leur énergie était quelque chose, pour moi, qui était très attirant.
C'est quel type d'énergie?
Je sais pas si je peux le définir. Il y a d'être absolument soi.
Ce serait ça pour vous, avoir du goût?
Oui, parce que ça suppose qu'on a son goût, qu'on s'est fait son goût et qu'on est dedans. Qu'on n'est pas perméable à la mode, à la tendance, à ce qui est bien de dire ou de porter. Il y a des gens qu'on rencontre, on les sent centrés et forts. Et ce centrage, cette assurance d'être soi, moi je trouve ça hyper sexy.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.